Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Comme je vous l'ai déjà dit dans le podcast, j'ai découvert la simplicité avec le livre de Dominique Laureau qui s'appelle L'art de la simplicité. Dans les années qui ont suivi, j'ai cherché à creuser la question et à l'époque, on parle de la fin des années 2000, le début des années 2010, il n'y avait pas encore Marie Kondo ou les documentaires sur le minimalisme, etc. Le minimalisme n'était pas aussi connu que maintenant. Mais j'ai quand même trouvé des ressources à l'époque, par exemple Life Edited de Graham Hill, qui parlait à l'époque donc du désencombrement, mais aussi de l'agencement de petits appartements. Sachant que dans les grandes villes, les logements sont de plus en plus petits et de plus en plus chers, et du coup son angle c'était d'optimiser l'espace de manière à pouvoir vivre dans des appartements plus petits. Et du coup j'aimais beaucoup son concept, hein, vivre mieux avec moins, mener une vie plus confortable dans un petit espace, c'était quelque chose de très intéressant pour moi qui vivais à l'époque dans un 2 pièces de 20 mètres carrés à Paris. Hein. Mais il y avait quelque chose qui me chiffonnait dans son approche de la simplicité, c'est le fait que son fameux Life Edited Apartment, qui était son appartement témoin à New York, avait coûté des dizaines de milliers de dollars à optimiser avec un architecte d'intérieur. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut être riche pour pouvoir bien vivre dans un petit espace ? Et par ailleurs, dans son bouquin, Dominique Laureau parle de se payer de la qualité en achetant moins de quantité. Elle parle de plaid en cachemire, de marbre italien, si je me souviens bien, de choses comme ça. Et déjà à cette époque, en plus, le marketing minimaliste avait fait son apparition. C'est-à-dire le principe de vendre des objets épurés, fabriqués dans des matières nobles, qui méritent, entre guillemets, d'entrer dans un appartement minimaliste pour peu qu'on puisse se le payer. Et du coup, une espèce de nouvelle frange d'objets de luxe, en fait, qui sont destinés à des minimalistes. Et évidemment qu'avec le succès croissant des mouvements autour de la simplicité, de plus en plus de marques se sont emparées de cet argument de vente. Aujourd'hui, promenez-vous dans n'importe quel quartier un peu bobo de Paris, et je suis sûre que c'est pareil à New York ou dans d'autres grandes villes, et vous trouverez des boutiques de créateurs slow, des concept stores qui sont bio, qui sont écolo, etc., avec des gammes de prix correspondant, on va dire. Alors en soi, l'existence de ce genre de produit ne me dérange pas du tout, au contraire. Si ça permet à des petits créateurs et des artisans locaux de trouver un public pour leurs produits, qui sont bah, du coup forcément plus chers que ce que les supermarchés nous ont habitués avec leur exploitation des travailleurs pauvres, hein, eh bien je trouve ça top. Et pour les personnes qui ont la possibilité de s'offrir ce genre de produit, je trouve ça chouette parce que finalement c'est généralement de meilleure qualité, c'est plus éthique, c'est plus écologique, c'est fabriqué localement. Et si on a les moyens de soutenir l'économie locale et de soutenir des alternatives plus écologiques, je trouve ça vraiment chouette. Par exemple, tout ce qui est zéro déchet, qui consiste à acheter des produits de manière à jeter le moins de choses possible, le moins d'emballages possible, etc. Moi qui prends pas tellement le temps de fabriquer mes propres sacs en coton ou autre, j'ai autre chose à faire dans ma vie, j'ai pas envie de faire ça, et ben je suis bien contente de trouver des marques qui vendent des sacs à vrac, des marques qui vendent des toiles cirées pour remplacer le papier d'alu, des marques qui vendent des savons à froid, etc., etc. Ce qui m'inquiète davantage, c'est pas tellement l'existence de ces produits en soi, c'est plutôt que toute cette mouvance et tout cet aspect marketing qui est destiné aux personnes qui ont des moyens pourrait amener les gens à penser que le minimalisme est un truc de riche, que c'est une mode pour les bobos parisiens qui a mille lieues des problèmes rencontrés par le reste de la population. Voyez. Donc, est-ce que le minimalisme est un truc de riche ? Quand on y pense, le minimalisme et la simplicité en général, c'est un mouvement qui est en réaction à la société de consommation et au consumérisme effréné qui nous fait acheter toujours plus, comme une boulimie d'acquisition au mépris de la planète et d'éthique de travail. De la même manière qu'on réfléchit à un régime hypocalorique quand on a trop à manger, on réfléchit au minimalisme quand on a trop à acheter. Et dans cette perspective, effectivement, le minimalisme est une mouvance issue de nos sociétés occidentales, développées, en paix et prospères. Je doute que pendant la Seconde Guerre mondiale ou dans les zones de conflit actuelles dans le monde, ou bien chez les ouvriers du Bangladesh qui sont payés 30 euros par mois pour fabriquer nos t-shirts de supermarché, ça m'étonnerait qu'ils s'intéressent au minimalisme dans ces endroits-là. Cependant, une fois qu'on parle de la population de nos sociétés occidentales, moi je parle en tant que française et je parle à des personnes qui sont dans ces sociétés-là, comme moi, je ne pense pas que le minimalisme soit réservé aux bobos. Je pense pas que le minimalisme soit réservé à des personnes urbaines, aisées, sans enfants, qui ont le temps et l'argent de boycotter les supermarchés, de se payer des produits artisanaux et de maintenir un appartement propre et rangé comme un catalogue Ikea, vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, je pense que simplifier sa vie, peut être utile à toutes les personnes qui vivent dans le monde moderne. Dans la société consumériste, nous sommes entourés d'injonctions à la consommation, de promesses de bonheur, d'amour et de satisfaction, si seulement on achète cette dernière montre à la mode. Je pense même que la simplicité serait particulièrement utile aux foyers les plus fragiles financièrement, qui ne peuvent pas se permettre beaucoup de superflu et qui du coup pourraient se trouver soit endettés, soit frustrés, soit les deux. Pourquoi notre monde moderne a besoin, je pense, de simplicité? Et c'est un petit peu le message que je souhaite faire passer avec ce podcast Simplicité, c'est qu'il est possible et bénéfique de simplifier sa vie dans le monde moderne. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement qui est saturé d'injonctions à la consommation. Si vous prenez la voiture ou le métro, vous allez tomber sur des affiches qui promettent la lune si seulement vous achetez cet objet ou ce service. Pareil sur les sites web gratuits, dont le modèle économique est la publicité. Ils se payent en vendant des espaces publicitaires, du coup quand on va sur internet lire des choses ou regarder des choses, on est bombardé de pubs. Idem à la télé évidemment, et sur les réseaux sociaux, sur lesquels nous passons des heures et des heures chaque semaine. Quand on va dans un magasin, par exemple au supermarché, qui sont les magasins où c'est le plus optimisé en fait, tout est conçu pour nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. Tout est conçu pour favoriser l'achat compulsif. La manière dont les produits sont organisés dans les allées, le parcours que vous faites. Je ne sais pas si vous regardez la prochaine fois que vous allez au supermarché. Vous passez par les rayons culture, vêtements, beauté, etc. avant d'arriver à tous les rayons nourriture qui sont ce qu'on cherche. Comme dit une copine graphiste qui a fait une école qui forme les publicitaires, le pire ennemi d'un directeur de supermarché, c'est le client qui arrive avec sa liste de courses et qui n'en dévie pas. Ensuite, on reçoit tout un tas de newsletters, par exemple, sur nos mails, ou même par SMS aujourd'hui, avec des offres, des promos en temps limité, des ventes privées, des soldes, tout pour nous pousser à consommer alors qu'on n'avait pas prévu de consommer. Le marketing aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se base sur la psychologie et la neurologie pour utiliser notre propre nature d'être humain et nous manipuler sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment quelque chose... C'est vraiment conçu pour nous faire céder qu'on ait envie ou pas, quoi, quelque part. Et du coup, si on n'en a pas conscience, on est d'autant plus sujet à ce genre de manipulation. Et même les experts en marketing, hein, dont c'est le boulot et qui connaissent ce genre de trucs, se font avoir aussi en tant que consommateur, c'est-à-dire qu'on est, on est toute une société de consommation où on est pris au piège de notre propre système, hein, en quelque sorte. Et bien sûr, comme notre famille, nos collègues, nos amis, etc. vivent dans la même société que nous, ils s'achètent eux aussi les derniers gadgets à la mode, ils changent de vêtements à chaque saison, ils couvrent leurs enfants de cadeaux, ils couvrent... Oui, c'est ça. Ils achètent plein de cadeaux pour leurs enfants à Noël. Et du coup, ajoutez ça à la pression sociale que... Tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce grégaire, nous autres êtres humains, on est câblés pour survivre en groupe. Et on est câblés pour se conformer aux codes sociaux du groupe dans lequel on est, pour s'intégrer et survivre. Et même si c'est moins vrai aujourd'hui, parce que la société, c'est un groupe qui est vraiment immense, et on peut un peu faire notre bazar dans notre coin tout en survivant dans la société moderne, mais génétiquement parlant, on est câblés pour imiter nos congénères, en fait, et pour rentrer dans le moule. Et aujourd'hui, le moule, c'est de surconsommer. Donc c'est d'autant plus compliqué d'échapper à ça, en fait. Puisque nous vivons dans un environnement qui nous pousse à la surconsommation, qui nous pousse aux achats compulsifs, et qui nous promet de combler nos besoins humains, donc des besoins d'amour, d'appartenance, de bonheur, d'accomplissement, etc., en achetant tel objet ou tel service. La pub nous promet que les objets et les services vont remplir ses besoins alors que ce n'est pas vrai. C'est pour cette raison que je suis intimement convaincue que la simplicité est bénéfique pour toutes les couches sociales de la population, parce que nous sommes tous et toutes conditionnés par cet environnement consumériste. Et je dirais même que les classes populaires en tireraient un bénéfice encore plus grand que, entre guillemets, les bobos. Pourquoi ? Parce que quand vous avez les moyens, vous voyez la pub pour une montre qui promet le bonheur, bon, dans le pire des cas, vous allez l'acheter. Ça va pas vous rendre heureux et vous allez tout de suite vouloir acheter autre chose, mais vous avez eu les moyens de vous payer cette montre, du coup, vous n'avez pas été frustré quelque part. Et ça vous a pas endetté non plus, même si c'est pas forcément la solution idéale, hein. Je dis pas que c'est mieux d'acheter plein de trucs inutiles quand on a les moyens, hein. Je pense sincèrement que la simplicité est bénéfique à tous, parce qu'on vit dans un monde qui est devenu fou et qui nous prive de sens en nous transformant en consommateurs au lieu d'être des citoyens et des créateurs. Ça, c'est une question pour un autre jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un foyer qui est plus fragile financièrement, Ces promesses consuméristes peuvent causer encore plus de dégâts, soit par frustration, parce que vous voyez cette montre que vous avez envie d'acheter, mais vous n'avez pas les moyens, donc du coup vous vivez une frustration du fait de gagner peu d'argent, en fait, de votre situation sociale, ou bien parce qu'on va se tourner vers des prêts à la consommation pour acheter la montre, et que du coup on va se retrouver endetté, et les dettes, ça crée du stress, ça s'auto-génère, hein, parce que les prêts à la consommation, c'est genre 20% de taux d'intérêt. Donc en fait, il faut payer tous les mois, ne serait-ce que pour rembourser les dettes, même sans s'acheter de trucs. Donc c'est une espèce de cercle vicieux pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ça peut nous enchaîner encore davantage à des boulots qui ne nous plaisent pas, par exemple, parce qu'il faut bien rembourser les dettes. Donc, à ce stade de l'émission, vous vous demandez peut-être, oui, mais comment pratiquer la simplicité quand on a peu de moyens, du coup ? Avant de proposer une réponse à la question, je voulais vous informer que Simplicité est un podcast libre d'accès que je prends le temps de produire sur mon propre temps et mes deniers personnels. Vous pouvez maintenant devenir coproducteur ou coproductrice de l'émission pour le prix d'un café sur la plateforme Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez aussi chercher sur patreon.com/floriteller. Ça compte beaucoup pour moi parce que cette forme de financement solidaire vous permet de soutenir une artiste indépendante et surtout de montrer qu'il est possible de maintenir une culture sans publicité dans le monde moderne. Et si vous n'avez pas la possibilité de soutenir Simplicité financièrement, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez m'aider en recommandant le podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux, ou encore en mettant une note sur iTunes. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Comment pratiquer la simplicité quand on a peu de moyens ? Si l'architecte intérieur qui optimise notre logement coûte des milliers d'euros, et que les objets de qualité, durables et locaux coûtent cher, comment on fait quand on n'a pas les moyens ? En gros, le principe du minimalisme tel que je le conçois et tel que je le présente dans cette émission, ce n'est pas de boycotter les supermarchés et de s'acheter plein d'objets bobos. C'est pas ça le minimalisme pour moi. Pour moi, le minimalisme, c'est avant tout de prendre conscience des fausses promesses de la société de consommation. C'est ce que Serge Latouche appelle la fausse abondance. En gros, nous vivons dans une société abondante aujourd'hui. Encore une fois, je parle des sociétés occidentales. Comme je le disais en début d'émission, un mouvement comme la simplicité naît dans un environnement où il y a trop à acheter. Notre société est en paix, nous disposons de logements, d'eau, d'électricité, et l'immense majorité d'entre nous, si vous écoutez ce podcast, avons de quoi manger, même si c'est que des pâtes au beurre. Mais en gros, on n'a pas peur de crever de faim aujourd'hui. Le problème, c'est que dans notre tête, on ne ressent pas cette abondance. On ne ressent que du manque. Le manque de cette montre qu'on a vue sur une affiche dans le métro qui promet le bonheur et qu'on ne peut pas se payer. Le manque du dernier iPhone qui vient de sortir, le manque d'une maison plus grande, d'une belle voiture, etc., etc. Notre société nous pousse à continuer de consommer. Et pour continuer de consommer, eh bien, il faut qu'on soit insatisfait de ce qu'on a. Comme dit Daniel Gilbert, centre commercial peuplé de moines bouddhistes ne sera pas particulièrement profitable. Donc pour qu'un produit soit profitable, il faut nous faire croire qu'on en manque. Et du coup, ça cultive un état d'esprit de manque. Ce que je propose avec la simplicité urbaine, c'est de changer notre rapport à la consommation. De prendre conscience que toutes ces promesses sont fausses, et que ce ne sont pas les objets qui nous rendront heureux, aimés et accomplis, ou quel que soit notre besoin. Prendre conscience de la manière dont la pub fonctionne, et trouver des stratagèmes pour ne pas tomber dans le piège du neuromarketing. La simplicité, c'est prendre conscience que l'essentiel, ce ne sont pas les objets. Et que notre vie serait bien plus riche et satisfaisante si on prend le temps de trier le superflu qui nous prend du temps, de l'argent et de l'énergie, qui sont des ressources si précieuses dans le monde moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire moins consommer, et surtout moins vouloir consommer, pour les personnes qui de toute façon ne consomment pas par manque de moyens. C'est-à-dire que si vous prenez conscience que cette montre ne vous rendra pas heureux et que du coup vous n'avez plus envie d'acheter la montre, et bien du coup vous évitez l'endettement et vous évitez la frustration de ne pas avoir les moyens de vous payer cette montre. Et ça c'est valable pour tous les objets. Si vous prenez conscience que vous n'en avez pas vraiment besoin, vous n'avez pas de frustration de ne pas pouvoir vous le payer. Ensuite, ça veut dire consommer plus intelligemment. C'est-à-dire trier les objets qui nous encombrent parce qu'ils nous prennent du temps et de l'argent à organiser, à entretenir, et que quelque part on a bien besoin de se libérer de l'espace mental dans le monde d'aujourd'hui, surtout si vous travaillez et que vous avez une famille à gérer. Ensuite, choisir ce que vous achetez en fonction de vos besoins à vous, et pas en fonction de ce que le directeur de supermarché met en tête de gondole ou en fonction de quelle marque a le plus gros budget marketing. Alors c'est très bien de vouloir consommer responsable, de vouloir se tourner vers le bio, vers le local, etc. Mais en fonction de vos moyens financiers, ce ne sera pas forcément possible tout de suite et c'est ok. Le minimalisme, c'est pas acheter uniquement français et écolo, même si c'est chouette pour la planète si vous pouvez vous le permettre. Le minimalisme, c'est définir vos critères d'achat en fonction de vos priorités, vos valeurs, mais aussi de vos contraintes. Et pour les foyers modestes, votre contrainte principale, ce sera peut-être le budget et c'est ok. Dans ce cas, simplifier veut aussi dire se renseigner sur la qualité des produits, sur le contenu des ingrédients ou des matières premières, et du coup, comparer un petit peu ce qui existe dans votre gamme de budget et choisir le meilleur objet possible dans votre gamme de budget, par exemple. Enfin, un outil puissant de la simplicité, à mon sens, c'est la gratitude. On en reparlera dans une émission future, mais le meilleur moyen de combattre cette fausse abondance et cette frustration de ne pas pouvoir se payer ce qu'on veut, c'est justement de cultiver la gratitude pour ce qu'on a déjà, même si c'est pas grand-chose. Et puis surtout, cultiver la gratitude pour autre chose que nos collections d'objets matériels. C'est-à-dire cultiver la gratitude pour les moments passés en famille et entre amis, pour les belles expériences qui sont parfois gratuites, qu'on peut vivre, etc., etc. Pour la mise en pratique du jour, je vais vous proposer deux exercices à tester si le cœur vous en dit. Premier exercice, devenez le pire ennemi du directeur de supermarché. La prochaine fois que vous avez des courses à faire, que ce soit au marché bio du coin ou à l'hypermarché en fonction de vos moyens, préparez une liste de courses. Par exemple, en vérifiant ce qui pourrait manquer dans les placards, niveau bouffe, niveau produits de ménage, etc., etc. Ou encore en planifiant quelles recettes vous allez cuisiner dans la semaine à venir, pour du coup ne noter que les ingrédients de ces recettes-là dans la liste. Ensuite, une fois que vous avez votre liste de courses avec vos besoins selon vos critères à vous, vous emmenez votre liste avec vous avec la règle suivante. N'achetez que ce qui est sur la liste et rien d'autre. Alors ça paraît tout bête et ça paraît peut-être même évident, on va super le podcast sur la simplicité qui m'explique qu'il faut que je fasse une liste de courses. Merci Captain Obvious. Mais en fait, dans la société d'aujourd'hui, comme je vous disais, tout est conçu dans le supermarché pour pousser à la consommation compulsive. Et du coup, si vous préparez la liste de ce que vous voulez acheter avant d'y aller, eh bien ça vous permet de contrecarrer un petit peu l'achat compulsif en vous tenant à votre liste. Et du coup, vous ne consommez pas au-delà de vos besoins. Deuxième exercice que je vous propose de pratiquer, c'est de pratiquer la gratitude. Dans notre société de fausse abondance, la gratitude est une émotion que l'on cultive rarement et qui se travaille. Du coup, je vous propose de combattre le sentiment de manque et de ramener un réel sentiment d'abondance dans votre vie en notant chaque soir un élément de votre journée pour lequel vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Donc ça peut être des choses très basiques, comme le fait d'avoir l'eau courante à la maison ou le fait que votre partenaire vous a préparé votre café ce matin. Et en fait, à mesure que vous pratiquez l'exercice au quotidien, vous allez peut-être penser uniquement à des choses comme « j'ai l'eau, j'ai de l'électricité, j'ai des beaux enfants », des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, vous allez trouver de nouvelles choses pour lesquelles pratiquer la gratitude, pour lesquelles vous allez être reconnaissant. Et comme le dit la recherche sur la question, une pratique régulière de la gratitude réduit le stress et augmente la satisfaction globale dans votre vie, et ce, quelle que soit notre classe sociale. Pour la ressource du jour, je vous propose de découvrir le livre « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» par Sonia Lyubomirsky. Je vous en ai peut-être déjà parlé de ce livre, mais je souhaitais mettre l'accent sur ce livre aujourd'hui parce qu'il résume de manière accessible les différentes recherches qu'il y a eu autour de la psychologie positive. Donc sachant que la psychologie positive, en fait, c'est une branche de l'étude de la psychologie humaine et du comportement humain qui étudie qu'est-ce qui nous rend heureux en fait, qu'est-ce qui comble nos besoins. C'est-à-dire que la psychologie traditionnelle va étudier les maladies mentales et qu'est-ce qui est problématique ou dysfonctionnel chez certains d'entre nous. Et la psychologie positive étudie un esprit qui est fonctionnel et comment un esprit fonctionnel peut trouver davantage de sens, davantage de bonheur, davantage de satisfaction, etc., etc. Et donc Sonia Lyubomirsky fait partie de ces chercheurs en psychologie positive et son livre « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» résume, je trouve, très bien les différentes pistes de recherche de la psychologie positive pour prendre un petit peu conscience de ce qui nous rend vraiment heureux. Et en fait, je me dis que la meilleure manière de prendre conscience que les objets et la consommation ne nous rendent pas heureux, et que les objets minimalistes pour Bobo ne nous rendent pas plus heureux pour autant, hein, c'est une lecture justement de qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui répond vraiment à nos besoins d'amour, d'appartenance, de bonheur, etc., etc. Dans le même ordre d'idées, si vous parlez anglais et si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande le MOOC sur la science du bonheur qui s'appelle The Science of Happiness, et qui est proposé par le Greater Good Science Center, qui ressort chaque année au moins en septembre, hein, et peut-être qu'il y a une session au printemps aussi. Donc je vous invite à aller voir le site du Greater Good Science Center, dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission, et c'est un MOOC qui est entièrement gratuit, mais entièrement en anglais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous y avez trouvé des idées intéressantes pour mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Vous trouverez un récap des sujets abordés ainsi que les ressources mentionnées dans les notes de l'émission sur simple-cite.com/020. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur le site ou me contacter sur Instagram et Twitter @floriteller, F-L-O-R-I-E-T-E-2-L-E-R. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !